j'avais à cœur de poursuivre la série que j'avais commencée avec la parabole, puisque ces deux paraboles se tiennent. La parabole du juge inique avec la veuve et la parabole qui suivait après, celle de du pharisien avec le publicain ou le collecteur d'impôts. Les deux paraboles se tiennent, ce sont des paraboles que Jésus a données, l'une à la suite de l'autre, à propos justement de la prière. Et c'est de ça que, évidemment, je voudrais parler ce matin. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre gloire et te bénir pour ta parole qui est la vie. Et nous voulons ce matin encore prolonger notre encouragement pour la prière en demandant, Seigneur, que toi-même, tu nous enseignes à prier. Toi-même, tu viennes avec nous par le Saint-Esprit, prier avec nous et nous conduire dans cette dimension importante, surtout devant le fait que nous sommes à la fin des temps, le fait que bientôt tu reviens, le fait qu'il faut qu'on se prépare, le fait qu'il y a une pression incroyable dans le monde aujourd'hui pour nous faire cesser de croire. Seigneur, accorde-nous ta grâce alors que nous partageons cette parole, moi ainsi que mes frères et sœurs, au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 18, du verset 9 au verset 14, nous allons donc lire cette parabole que Jésus ajoute à la suite de la parabole de la veuve. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci, c'est-à-dire le publicain, descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. J'aimerais donc, comme je vous ai dit, prolonger mon encouragement à la prière que j'avais partagée déjà le dimanche passé. Nous avions parlé de la prière en insistant sur la persévérance, la prière persévérante, axée sur la foi vivante en Dieu, puisque c'est le défi de la foi qui reste l'enjeu majeur pour la fin des temps. Le Fils, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? J'avais, à ce moment-là, insisté sur le fait que, au travers de la parabole du juge, de la veuve et du juge unique, j'avais insisté sur ces éléments qui étaient touchants et interpellants quant au profil spirituel même de la veuve. Ces deux paraboles sont bien sûr liées. Elles concernent toutes la prière, puisque dans l'un, c'est clairement dit, voilà, c'est pour pouvoir prier, et l'autre, ce sont le pharisien et le publicain qui montent pour prier. Il s'agit bien du thème de la prière pour les deux. Elles ont été données l'une à la suite de l'autre par la même personne, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. Le contexte immédiat est le même, à savoir le retour de Jésus, comme je l'ai expliqué la fois passée. La différence, c'est que la deuxième parabole met l'accent sur la disposition du cœur, la disposition qu'il faut avoir pour la prière, la disposition du cœur dans la prière, et d'une manière générale, l'attitude de vie à développer dans notre relation avec Dieu et les autres. Cette parabole fait réfléchir sur l'attitude du cœur et bien sûr, aussi sur les conséquences de cette attitude. Pour associer les deux paraboles, on peut dire qu'il s'agit donc d'apprendre à développer une vie de prière persévérante. J'avais insisté sur la notion de la persévérance en disant que la persévérance était le thermomètre par lequel on pouvait apprécier notre foi. Je ne persévère que parce que j'ai la foi, un peu comme je l'avais illustré avec les élèves, ils ne persévéreront à étudier que parce qu'ils ont la foi qu'ils vont réussir. Si je n'ai pas la foi que je vais réussir, je ne vais pas me battre à étudier. Et puis, pour associer donc les deux, il s'agit donc d'apprendre à développer la persévérance, la prière persévérance, tout en travaillant la disposition du cœur. Le profil spirituel de la veuve est aussi en rapport avec le personnage donc du publicain, comme on le verra. Mais à la différence, c'est que le publicain est en face avec sa conscience de son état de pécheur. Alors que la veuve, c'est une indigente, c'est une malheureuse qui n'a personne, qui n'est rien, et qui va cependant compter sur le Seigneur. Pourquoi est-ce que Jésus donne cette parabole? Verset 9. Il dit cette parabole en vue des personnes qui se persuadent d'être qu'elles sont justes et ne faisant aucun cas des autres. Donc, il dit cette parabole dans le but d'interpeller l'attitude qui caractérise beaucoup de personnes, particulièrement dans le cas ici les pharisiens, qui est l'attitude de se persuader d'être juste, de croire qu'on est juste, donc le sentiment d'être le propre juste, quoi. En quelque sorte, je suis juste par le fait que je pense que je suis tout à fait juste. Et à cause de cette attitude, ils ont évidemment tendance à mépriser les autres. L'exemple choisi par Jésus est un pharisien. Et on peut découvrir à travers sa prière, la prière de ce pharisien, on peut découvrir un peu ce que c'est qu'être un propre juste. Ce que c'est qu'être quelqu'un qui méprise, qui se persuade d'être juste. Ce pharisien, il dit qu'il n'est pas comme les autres hommes. Il n'est pas comme les autres hommes. Lui, il est particulier. Il dit, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Et il dit que ce reste des hommes, il se considère non seulement comme différent des autres, mais il se considère comme meilleur, comme supérieur aux autres. Ce qui justifie cette supériorité, c'est le fait que lui, il respecte la loi. Il est presque parfait dans l'observance de la loi. Il fait plus que ce qu'il doit faire avec la loi. Il jeûne 2 fois par semaine. En Israël, il suffisait de jeûner 1 fois par an lors de la fête des expiations. Mais il jeûne 2 fois par semaine. Il fait plus que ce que la loi lui demande. Il donne toutes les dîmes de ses revenus, de tous ses revenus. Il fait plus que ça. La parole ne lui demande pas, la loi ne lui demandait pas de faire ça, mais il va faire plus parce qu'il est parfait. Il respecte rigoureusement la loi. Et par conséquent, il se vit un sentiment qu'il est parfait, qu'il est au-dessus, qu'il est meilleur que les autres. Il s'évalue lui-même, c'est ça le problème. Le propre juste, il s'évalue lui-même. Il regarde la liste des choses qu'il faut faire, il se compare avec ça, il s'évalue lui-même, il dit « je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis le plus fort, c'est moi quoi ». Quelque part, ce n'est plus Dieu qui est en face de lui. Ce n'est pas Dieu le face-à-face avec lui. Le face-à-face avec lui-même, le face-à-face qui est en face de lui, c'est lui-même. C'est lui qui se compare avec lui-même et qui fait des comparaisons par rapport à lui-même et qui se auto-congratule ou en tout cas s'auto-élève. Il est en face avec lui-même. Et vous savez, quand quelqu'un est en face avec lui-même, on appelle ça dans le langage psychologique le narcissisme. Vous connaissez cette histoire de Narcisse, cet homme qui s'est tellement regardé sur l'eau, hein, qui regardait le reflet de son visage sur l'eau, et il se trouvait tellement beau qu'il a voulu toujours plus regarder, se rapprocher pour voir encore plus la beauté de son visage jusqu'à ce que plouf, il est tombé et il s'est noyé. Le narcissisme, cette tendance à justement, vouloir ne regarder que soi-même, s'évaluer par soi-même et pouvoir aller de l'avant en disant, en se regardant avec soi-même. Nous grandissons tous avec ça. On est tous élevés avec ça. On nous élève à la performance, à dire tu dois vouloir plus que ce que toi tu es, donner plus que toi, plus que ce que toi tu es, te dépasser pour aller plus loin. Et tu as tout ça en toi. Tu es capable d'aller en avant. Le problème de propre juste, c'est que à un moment donné, on finit par commencer à se comparer aux autres. Et on finit par se dire, je suis le meilleur, je suis le plus beau. Souvenez-vous un peu, je sais pas si vous avez regardé ces images. Lorsque, en Roumanie, le président Ceaușescu va être arrêté et on va lui faire le procès. Je sais pas si vous avez suivi ça. Il regardait les gens qui lui faisaient le procès en rigolant. Il disait, mais attends, vous faites quoi là? Pour lui, c'était une vaste comédie. On ne pouvait pas lui faire un procès. Après tout, c'est Ceaușescu. Comment faire un procès à Ceaușescu? C'est le président. On ne peut pas le toucher. Comment? Il ne comprenait pas. Et je suis sûr que le pauvre homme, lorsqu'il a été condamné à mort et qu'on l'a exécuté, il ne comprenait toujours pas pourquoi on l'a exécuté. Pourquoi? Parce qu'il est devenu sa propre évaluation personnelle. C'est lui, c'est son monde à lui, c'est sa bulle à lui. Et c'est tout. Dans mon pays d'origine, au Congo, c'était la même chose avec le président Mobutu. Fin de régime, on le menace, sa vie est en danger. Il dit non, le Congolais ne me tuera pas. Le Zaïre ne peut pas me tuer. Il ne peut pas me tirer dessus, c'est pas possible. Je suis leur président, il m'aime. Jusqu'à ce que son propre fils a dû le porter de force pour le mettre dans l'avion, que l'avion a dû décoller avec des balles qu'on tirait sur lui. Le propre juste, c'est quelqu'un qui finit par croire qu'il est Dieu, qu'il est tellement supérieur qu'il n'y a rien d'autre qui vaut encore la peine d'être regardé. On va dire, vous allez dire, mais Gaston, tu parles de quelque chose, est-ce que nous sommes comme ça? C'est quand même un peu fort, hein? Est-ce que nous sommes comme ça, nous? Peut-être pas, peut-être bien. C'est à chacun de réfléchir et de voir comment on peut évaluer pour savoir si nous sommes dans cette posture-là. Regardez, qu'est-ce qu'il dit? Il regarde les défauts des autres. Je ne suis pas, verset 11. Donc je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes. Ils sont comment le reste des hommes? C'est des ravisseurs. C'est des injustes. C'est des adultères. Et ça va même plus loin. Il va donner même une illustration. Ou même ce publicain. Et quelque part, il avait raison. Parce que ce publicain-là, c'est quelqu'un qui est mal considéré dans la société. C'est un voleur. Il travaille pour le pouvoir romain. C'est un traître à la nation juive. En plus, ils s'enrichissent. On leur envoie d'aller percevoir 100 euros, c'est un exemple, 100 euros d'impôts. Lui, il va mettre 125. Et 25, il va mettre à côté. C'est pour lui. C'est des voleurs. Et le pointe du doigt. Parce qu'il a le sentiment d'être le meilleur, il pense qu'il peut aussi juger les autres. Alors un instant de réflexion pour chacun de nous. Peut-être que nous ne sommes pas des narcissiques, Dieu merci, c'est chouette. Peut-être que nous ne sommes pas des gens qui vivons dans notre bulle en disant « il n'y a que nous, nous sommes les meilleurs, Dieu merci ». Mais combien ne sommes-nous pas tentés d'avoir cette attitude légaliste, cette attitude où on se dit « parce que je fais des tas de choses, parce que je suis un type qui arrive à bien m'organiser, parce que je suis un type qui arrive à bien faire les choses, parce que je suis le premier de la classe, parce que je suis le plus ponctuel, parce que je sais faire ceci, parce que je sais faire cela, parce que je m'en sors avec ceci, j'ai un bon boulot, j'ai un bon métier, etc., etc. » Combien de fois ne sommes-nous pas tentés de dire, à cause de cela, je suis le meilleur. Par contre, oh là 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 là, l'autre là, oh là là, la catastrophe. Combien de fois ne sommes-nous pas tentés de cela? Peut-être des questions auxquelles on peut se poser ce matin. Ma qualité de chrétien repose-t-elle sur un ensemble de codes de conduite ou bien sur la conscience que je fais l'objet de la grâce de Dieu? Est-ce que le fait que je sois chrétien et que je sois fier d'être chrétien, que j'affirme mon appartenance à Christ, ça repose sur un ensemble de codes de conduite que je respecte scrupuleusement, ou bien sur le fait que je fais l'objet de la grâce de Dieu. C'est parce que Christ m'a trouvé sur la route. C'est parce que Dieu a voulu, dans son amour, a voulu manifester, concrétiser son amour en envoyant son Fils pour moi. Une autre question. Est-ce que j'ai tendance à me comparer aux autres pour savoir si je suis un bon chrétien? Ou bien, est-ce que je marche sous le regard de Dieu en confiant ma vie à Christ? Deux attitudes différentes. Il y a des chrétiens qui passent leur temps à se comparer aux autres. Ah, tel il prie bien. Mais moi, je ne prie pas comme ça, alors je vais essayer d'atteindre le niveau que lui-là. Ah, tel fait ceci, eh bien moi, j'aimerais bien le faire. Et il y a des chrétiens qui se bagarrent parce que, attends, pourquoi est-ce que c'est toujours tel qui préside ou qui prêche ou qui fait ceci et pas moi? Pas moi. Il y a des choses que nous faisons qui peuvent nous conduire à manifester un caractère qui est derrière lequel se trouve cette nature d'être propre juge. Derrière le comportement, la nature d'un propre juste, il y a un homme, une femme orgueilleux, orgueilleuse. Quelqu'un qui compte non sur Dieu, mais sur ses capacités personnelles. Et pour ce genre de personne, Dieu est comme un fétiche. C'est un objet qui vient apporter un plus. C'est comme un talisman. Ça vient juste ajouter un truc, une protection supplémentaire. Moi, je suis déjà, je vaux déjà, je fais déjà, je suis capable de. Mais Dieu vient m'apporter un surplus pour que tout soit parfait. Malheureusement, parfois aussi, à cause de la tendance à être resté souvent dans l'exécution de la loi, il y a parfois des personnes qui deviennent des propres juges dans nos églises. Ils ne se soumettent pas à Dieu. Leur prière est stérile. C'est un monologue et pas un dialogue. Seigneur, je te bénis parce que moi, je suis beau. Je te bénis, Seigneur, parce que moi, j'ai un bon boulot. Je te bénis, Seigneur, parce que, et je te bénis, je toujours. La prière n'est plus un dialogue, ça devient un monologue. Je suis devant Dieu, mais je parle pour moi, je parle avec moi-même, je m'admire devant Dieu, sous le regard de Dieu. Il se présente à Dieu pour se vanter, pour faire valoir combien ils sont parfaits, ils sont fidèles. Évidemment, c'est un sentiment qui est lié avec le fait que nous sommes attachés au respect de la loi. Mais le vrai christianisme, nous l'avons déjà appris, nous le savons déjà, ce n'est pas l'ensemble des règles qu'il faut respecter. Le vrai christianisme, c'est une relation vivante avec un Dieu vivant. Le vrai christianisme, c'est une marche, la marche du pèlerin, côte à côte avec son Seigneur. Donc l'attitude du propre juge est une attitude que Jésus fustige et condamne. Jésus condamne cette attitude et dit, ce n'est pas comme ça. Si vous voulez une vie de prière, si vous voulez rentrer dans une dimension de vie chrétienne profonde, il faut développer l'autre attitude. C'est l'attitude du publicain à partir du verset 13. Dieu aime l'attitude du cœur comme celui de publicain. Cet homme est tout sauf un type bien. Il est tout sauf un type bien. Et il le sait. Il sait qu'il n'est pas du tout le meilleur des hommes, loin de là. Il sait qu'il est une crapule, c'est la pire des gens. Il le sait. C'est un voleur, il le sait. Et il sait que s'il se met à parler, il est obligé de dire toutes les choses qui ne feront que le condamner. Et il le sait. Et il sait que devant Dieu, sa conscience lui dit, tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas. Je sais qui tu es. Et il sait qu'il ne peut pas se défendre devant Dieu. il n'a rien à faire valoir. Il ne fait pas ses jeûnes, il ne donne pas sa dîme, il ne prie pas, il ne fait pas ses purifications, il ne va pas à la synagogue. Vous imaginez un publicain dans une synagogue? Scandale chez les juifs, hein? Il ne peut pas être là-bas, c'est pas possible. Un publicain, non. Il sait qu'il dépend de la grâce de Dieu. Il dépend de la miséricorde de Dieu. Tout ce qu'il faut pour lui, c'est la grâce et la miséricorde de Dieu. Parce qu'autrement, il ne vaut rien. Et voilà pourquoi il va faire cette prière-là. Et Dieu, sois apaisé. Aie pitié de moi. Sois propice. Sois favorable. Sois favorable. Parce que je suis un pécheur. Parce que je suis un pécheur. Mes amis, voilà l'attitude de cœur. Voilà la disposition favorable à la prière. Dieu veut des cœurs humbles. Dieu veut des cœurs humbles qui viennent à lui en toute humilité. L'humilité est justement cette attitude d'abaissement. Cette attitude où je ne me positionne pas, je ne me mets pas sur un piédestal, mais l'attitude où je reconnais que je suis rien du tout. Je m'abaisse devant Dieu. Dieu veut des mains vides, des gens qui viennent avec des mains vides pour qu'ils puissent les remplir. Si je viens chargé avec mes mains, avec quoi Dieu va me remplir? Je suis déjà chargé. Je suis déjà plein de moi. Je suis déjà plein de trucs que je m'adore à regarder. Un peu comme l'oncle Picsou. Vous connaissez l'histoire de l'oncle Picsou? L'oncle Picsou, lui, passait son temps où? Dans son coffre-fort, là où il y avait tout son trésor. Et il était là, il les serrait dans les bras. Mes chéris, je vous aime. Et il leur fait plein de bisous. L'oncle Picsou était heureux de ses sous. Il n'avait pas besoin de quoi que ce soit. Mais vous savez que l'oncle Picsou, c'est un homme très avare. Il ne partage pas sa fortune avec lui. Sa fortune, c'est à lui. Point barre. Il ne donne à personne. Dieu veut des personnes humbles qui viennent avec des mains vides pour qu'il puisse les remplir. Dieu veut des gens qui viennent à lui en assumant leur position de pécheur et en implorant son pardon. Dieu veut des gens qui viennent à lui en sachant qu'il n'y a pas d'autre solution ailleurs que celle que Dieu peut donner. Dieu veut que, lorsqu'on s'approche de lui, nous regardions un peu aussi à notre cœur, à notre état spirituel. Voyez, avec la veuve, c'est son état normal. On ne sait pas si c'est une pécheresse, je veux dire, on ne sait pas si son rapport à Dieu était un rapport correct ou non. Ça, ce n'est pas vraiment la question qui est posée avec la veuve. Et juste que la veuve, elle est indigente, elle a besoin qu'on l'aide. Mais ici, cet homme, ce n'est pas le problème d'argent qui lui manque. Puisqu'il a tellement volé, il en a. Ce n'est pas le confort qui lui manque, il en a, il a tellement volé. Mais ce qui lui manque, c'est sa relation avec Dieu par rapport à son cœur. Là, dans son cœur, il sait qu'il n'est pas bon face à Dieu. L'humilité. D'un côté, l'orgueil avec le pharisien. De l'autre côté, l'humilité avec cet homme. Mes amis, la parole de Dieu dit que cette position que cet homme a occupée, il est rentré chez lui justifié. Rentré chez lui, rendu, déclaré juste quant à sa requête. Gratifié. Comme je le disais la fois passée, mes amis, nous sommes dans une époque particulière. Une époque où il y a beaucoup de choses qui bougent. Où notre foi va de plus en plus être mise à l'épreuve. Où les gens qui avant, entre guillemets, respectaient la neutralité, la tolérance, dans le sens de dire, ok, tu crois comme ça, je te laisse. Eh bien, aujourd'hui, les gens vont de plus en plus et clairement manifester leur hostilité face à notre foi et faire pression pour que nous abandonnions notre foi. Aujourd'hui, nous n'avons plus en face de nous les agnostiques, mais nous avons les athées en face de nous. Et eux, ils n'aiment pas Dieu et ne veulent pas qu'on croie en Dieu. Aujourd'hui, notre foi va être mise à l'épreuve. Aujourd'hui, notre foi va être tellement mise à l'épreuve qu'on va avoir des difficultés à avancer. Pour pouvoir avancer, Jésus nous a proposé une solution, c'est la vie de prière, apprendre à prier avec persévérance. Mais aussi apprendre à prier dans un dialogue avec Dieu et pas un monologue. Un dialogue où je parle à Dieu et Dieu me parle. C'est ça que Dieu propose aujourd'hui à la fin de notre temps pour faire face à l'adversité qui va de plus en plus être croissante pour nous les chrétiens. Mais pour pouvoir prier dans un dialogue et non pas dans un monologue, nous devons prendre la posture des personnes humbles. Nous devons être humbles. Parce que celui qui est humble, c'est celui qui s'abaisse. Et celui qui s'abaisse, c'est celui qui vient les mains vides, qui vient pauvre, qui vient nu, qui vient à découvert, qui s'en remet complètement entre les mains de Dieu pour que Dieu agisse. Qui reconnaît son état de départ. La base de la relation entre Dieu et nous, c'est une base où, bien sûr, nous avons été créés par lui, mais la base, c'est que nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs, mais qui ont trouvé grâce auprès de Dieu et nous ne devons pas oublier cela lorsqu'on s'approche de Dieu dans la prière. Ça change tout. Ça change notre prière. Imaginez toutes ces prières orgueilleuses. Imaginez toutes ces accusations devant Dieu. Seigneur, si tu es Dieu, pourquoi moi je souffre comme ça? Seigneur, et tu me fais... Toutes ces choses vont changer. Parce que je sais que ce que je demande à Dieu, il n'est pas obligé de me les donner. Il est Dieu. Je suis pécheur. Mais Dieu peut me faire grâce. Dieu est sensible à la miséricorde. Si je viens en implorant sa pitié, il est sensible à ça. Et Dieu accorde cela. Reconnaissons notre état de vie, où nous en sommes avec Dieu. Notre christianisme d'aujourd'hui a besoin de sortir de ce sentiment de propre justice, où nous avons tendance à nous dire, puisque nous sommes des chrétiens, on est correct. On élève bien nos enfants, on vient tous les dimanches au culte, on fait tout bien, on ne triche pas avec le fisc, on est correct dans nos propos, on ne dit jamais des grossièretés, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, donc nous sommes parfaits. Faux, faux, faux. Nous sommes parfaits. Lorsque nous avons reconnu la grâce de Dieu sur nous. Et lorsque nous pouvons marcher, nous pouvons marcher dans notre vie en âme et conscience, comptant sur la grâce de Dieu pour nous aider chaque jour à aller de l'avant et être prêt à dire lorsque nous tombons, lorsque nous fautons, lorsque nous sommes dans une situation mauvaise, l'avouer devant Dieu, le reconnaître, demander pardon et changer et continuer. Et même quand nous sommes parfaits et qu'on n'a rien à se reprocher, jamais aller vers Dieu d'une manière orgueilleuse, mais aller vers Dieu en disant « Seigneur, tu sais qui je suis ». Je suis un pécheur, mais j'ai trouvé grâce auprès de toi. C'est ta parole. Moi, je m'appuie, ma seule force, le seul privilège que j'ai, c'est de compter sur ta parole, parce que c'est dans ta parole que tu dis que tu peux me faire grâce, que tu dis que tu peux m'exaucer. Je m'appuie sur ta parole. Amen. Prions. Merci Seigneur pour le peu que nous pouvons partager. Merci pour ta parole. Merci pour nos cœurs. Aide-nous à nous abaisser, à apprendre à nous abaisser. Oh Seigneur, on ne te demande pas d'apprendre à nous abaisser et de devenir des bons à rien ou des gens qui s'abaissent pour n'importe quoi. Apprends-nous juste à nous abaisser pour toi, pour que ton nom soit glorifié, pour que tu reçoives la gloire, pour que tu sois Seigneur en l'honneur. Apprends-nous à nous abaisser, afin que, oh on ne le demande pas pour cela, mais afin que tu accomplisses ta parole et ta promesse qui dit que quiconque, sera, quiconque, celui qui s'abaisse sera élevé. Accorde-nous de vivre non pas une élévation qui est le fruit de notre orgueil, de notre fierté personnelle, de nos efforts, de nos mérites personnels, mais accorde-nous d'être élevés simplement en toute humilité, exactement comme Jésus, que tu as souverainement élevé au-dessus de tout nom. Pourquoi? Parce qu'il a été obéissant jusqu'à la mort et à la mort humiliante sur la croix. Accorde-nous de marcher sur ce modèle-là, au nom de Jésus. Amen.